chères auditrices de Mets de Résistance, Radio Galère 88.4 et de Radio Mono à Châlons-en-Champagne. Aujourd'hui, nous allons parler des Jeux Olympiques parce que à la médiathèque de Châlons-en-Champagne, médiathèque Pompidou, il y a actuellement une exposition très intéressante qui porte sur les Jeux Olympiques vus par les Chalonnais. Et les Chalonnais ont quelque chose à dire, à nous dire sur ces Jeux Olympiques qui, dont la première version a commencé en 1896. Enfin, je ne parle pas des Jeux Olympiques de l'Antiquité, bien entendu, puisque tout le monde sait que les Jeux Olympiques ont été inventés dans la Grèce antique, que c'était une véritable institution avec les premiers marathons, entre autres. Mais en 1896, on relance les Jeux Olympiques et les premiers sont à Rome, n'est-ce pas, Pierre? J'ai bien sûr, comme vous pouvez vous en douter, c'est Pierre Gandil qui répond à nos questions aujourd'hui et qui nous présente l'exposition qui a lieu en ce moment à Châlons.
Alors j'ai un doute, mais il me semble que non, c'est Athènes, je crois.
Ah pardon.
Oui. Et ensuite Paris en 1900, si mes souvenirs sont bons.
Pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Rome. Forcément, c'est à Athènes, puisque je vous parlais tout à l'heure des Jeux Olympiques dans la Grèce antique. Effectivement, il était tout à fait logique que les premiers soient à Athènes. Alors, Pierre, vous avez choisi, après l'exposition sur Solange Ast, qui était aussi une grande sportive, d'ailleurs, on en avait parlé à la dernière émission, vous avez choisi de parler plus particulièrement d'une famille qui est la famille Lovaux. Pourquoi ? Parce que au début du XXe siècle, dans la famille Lovaux qui était chalonnaise, il y avait quatre frères qui étaient sportifs.
C'est ça. Donc on a choisi, effectivement, pour parler des Jeux Olympiques, vu de Châlons, donc il y a un certain nombre de Chalonnais qui ont participé aux Jeux Olympiques. Il y a presque eu des épreuves de Jeux Olympiques à Châlons, on va l'évoquer. Et surtout, donc on a cette famille Lovaux, famille ouvrière de la fin du 19e, début 20e siècle, avec 15 enfants, dont beaucoup de sportifs et 4 qui deviennent des sportifs de niveau national et international. Et dans cette famille, dans cette fratrie, on a un certain Henri Lovaux qui, en 1924, remporte la médaille de bronze par équipe de cross-country, donc médaille pour la France, et il était le premier Français dans la course en question.
D'accord. Alors, c'est très intéressant. La famille Lovaux, 15 enfants, c'est beaucoup. À l'époque, c'était assez courant, non ?
Ce n'est pas... C'est une famille nombreuse, mais ça n'est pas aussi exceptionnel que nos jours.
D'accord. Et alors, cette famille, alors les parents faisaient quoi, tu sais ?
Alors, la mère était... Donc on a justement, comme c'est une famille chalonnaise, on a l'acte de naissance d'Henri Lovaux qu'on expose. Donc il est né en 1900, enfant du siècle. Son père est pêcheur de sable et sa mère manouvrière. Alors manouvrière, bon, on voit, travaille à la journée, particulièrement pénible.
Dans une usine.
J'aurais plutôt pensé que c'était un travail agricole en général. Mais c'est pas plus détaillé que ça et c'est pas un travail très. En général, c'est des travaux de force peu qualifiés. Donc pêcheur de sable, c'est pas très connu, c'est étrange comme nom. On dit aussi, ça veut dire donc qu'il récoltait. Donc il y avait un petit bateau et il récoltait donc le sable des fonds de la Marne. Le sable du fond des fleuves étant un sable de qualité qui est utilisé notamment dans la construction. Donc qui va fournir, je crois, les cimenteries. Donc c'est un travail épuisant qui a existé jusqu'à ce qu'il soit remplacé par les appareils de drague des fleuves mécaniques.
D'accord. Et c'était assez courant à Châlons parce qu'il y avait...
je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de pêcheurs de sable à Chalon, mais enfin c'était sur les différents fleuves de France, c'était effectivement une activité assez assez courante. Oui.
D'accord. Mais enfin, ils devaient travailler avec la Marne.
Alors, ils travaillent sur la Marne, effectivement, et ils ne travaillent pas seuls. Je crois qu'il faut être deux sur le bateau. En tout cas, on sait que ces enfants, à partir du moment où ils étaient en âge, ont travaillé avec lui. On est vraiment dans une famille ouvrière, pauvre, très modeste. On a un passage où ils nous disent que les enfants Lovo, le week-end, allaient... glaner ou essayer de chasser des chercher des nids ou chasser des escargots pour si je puis dire mettre du beurre dans les épinards. En tout cas voilà, on est vraiment donc sur une famille extrêmement modeste, et pourtant donc cette famille voilà fait du sport. Alors ils font du sport dans le cadre d'un sport amateur qui se développe, qui s'organise et qui s'ouvre aussi donc aux classes ouvrières. On voit donc d'abord l'aîné qui s'appelle Gustave Lovo, qui est né je crois en 1892, qui fait partie d'une première association sportive chalonnaise. Donc les associations sportives, elles se développent après la guerre de 1870, principalement dans le but de former les jeunes gens pour la guerre suivante.
Ah d'accord, ok, je ne voyais pas, ok. Parce que a priori, enfin cette comparaison, enfin cette remarque est assez intéressante, parce que au départ, normalement, le sport et c'est la logique des Jeux Olympiques. C'est justement de faire la paix. Puisque je pense qu'en 1896, quand on a relancé les Jeux Olympiques à Athènes, l'optique, c'était de mettre en avant l'entente cordiale et la coopération entre les États en les faisant se rencontrer lors de manifestations où on mettait en avant le corps. Et je trouve ça très, très contradictoire avec le fait que les clubs de sport prolifèrent, se mettent à proliférer en France dans le but de former les jeunes à la résistance physique pour pouvoir faire la guerre.
Alors il y a plusieurs clubs de sport qui apparaissent à Chalon dans la fin du 19e siècle. Certains sont plus ou moins orientés vers ce côté militaire. Et bon, y en a où bon, c'est clair, où ils pratiquent le tir, où c'est vraiment presque un entraînement militaire, paramilitaire. Lui, il participe. L'aîné des Lovo, donc Gustave, adhère au club pédestre et nautique chalonnais, qui est créé en 1898 et qui a lui plus manifestement un but ludique. Il n'a pas l'air très guerrier dans son orientation, contrairement à d'autres. On a donc ce premier Lovo qui adhère et qui entraîne apparemment avec lui tous ses frères. Sur ses sœurs, on a peu d'informations, je le regrette. Donc, 9 garçons sur 15 enfants, ça laisse 6 filles. Un interview que j'ai trouvé dans la presse dit que tous les enfants Lovo étaient sportifs. Alors, mais dans le club de Gustave Lovo, apparemment, il n'y avait pas de sport féminin. Donc, est-ce que les filles Lovo pratiquaient le sport dans un autre club ? Donc les héritiers des Lovo à qui j'ai pu parler n'ont pas pu me répondre, mais c'est peut-être une information qui reste à trouver. Donc avis aux chercheurs qui écouteraient l'émission, il faudrait retrouver s'il y a une trace des sœurs Lovo dans les activités sportives chalonnaises. La Renaissance existait pour le coup, et je crois qu'ils avaient déjà des activités féminines à l'époque.
D'accord. Et tu sais combien elles étaient de filles ?
6.
6 filles. Donc ça fait 6 filles et 9 garçons.
C'est ça.
Bah alors, quelle famille. Bon, alors, la première source d'information, c'est une grande affiche. Je sais pas comment on appelle ce genre d'affiche qui a été fabriquée pour l'occasion par vous.
Effectivement, dans l'exposition, vous avez au total 3 panneaux, dont le premier qui résume vraiment l'essentiel du propos sur les Henri Loveau et les frères Loveau. Donc on raconte justement cette histoire des frères Loveau, où on évoque ces différents clubs sportifs chalonnais. Donc Gustave Loveau participe donc à ce club pédestre et nautique chalonnais, donc je disais des activités de course à pied et des activités de natation, donc le côté nautique. Et le club disparaît avec la Grande Guerre. Et après la guerre, donc, on voit se créer de nouveaux clubs sportifs à Chalons. Gustave Loveau et ses frères adhèrent au Sporting Club Chalonnais, et c'est là donc qu'ils vont s'illustrer en athlétisme. Alors là aussi, on a un club qui ne fait pas que de l'athlétisme, qui pratique ce qu'il appelle les sports d'été. Donc effectivement la course, le tennis, le rugby, le football je suis plus sûr, mais en tout cas ils font du rugby aussi, et la natation toujours.
D'accord, donc sur ce premier panneau qui s'appelle « Dans la foulée d'Henri Loveau, Jeux Olympiques Paris 1924 », il est question de l'épreuve de cross-country des JO, des Jeux Olympiques de Paris 1924. Donc celle-ci a été courue le 12 juillet 1924 et elle fait date parce que c'est la première et la dernière. C'est la première à Paris et puis mais la dernière. Enfin, bien entendu, il va y avoir d'autres épreuves de cross-country. C'est une discipline qui est assez courante. Je rappelle que le cross-country, c'est du demi-fond, c'est-à-dire qu'on fait une course à pied c'est différent de la course sur piste ou qui est pour laquelle les hommes ne font pas plus de à peu près 5 km et les femmes à peu près 3 km sur une piste olympique. Mais c'est différent aussi du marathon le marathon c'est une course de fond. Une course qui fait à peu près 43 km. Le demi-fond c'est entre les deux, c'est-à-dire souvent les épreuves de cross-country, je connais pas exactement aujourd'hui la longueur l'épreuve masculine et celle de l'épreuve féminine, mais souvent c'est à peu près une dizaine de kilomètres.
Alors, il y a des distances qui varient, mais effectivement, donc le cross-country de l'épreuve olympique de 1924, c'est 10 kilomètres.
À l'époque, c'était 10 kilomètres. Aujourd'hui, je crois que c'est à peu près 5 kilomètres pour les hommes et 3 kilomètres et quelques pour les femmes. Je me suis trompée tout à l'heure. Sur piste, vous avez le 1000 mètres, le 3000 mètres et le 100 mètres, bien sûr, qui est une épreuve qui est très populaire de nos jours, avec les grands champions qu'on connaît. Mais à l'époque, merci Pierre, le cross-country, c'était 10 kilomètres. Et alors, tu nous racontes que... le panneau... Tu nous racontes par ton intermédiaire, puisque tu as participé à l'élaboration du panneau. Il y a eu un été très chaud, et le jour de l'épreuve, il y a eu une température de plus de 40 degrés qui a fait que les coureurs ont tous abandonné les uns après les autres. Et sur 38 concurrents, seuls 15 atteignent la ligne d'arrivée. Et puis il y a des coureurs qui se sont évanouis, et les secours ont mis du temps à arriver, donc c'est un véritable fiasco qui amène le comité olympique à supprimer l'épreuve. Et la décision n'a pas été remise en cause, et aujourd'hui, le cross-country ne fait toujours plus partie des Jeux olympiques. C'est bien ça, Pierre ?
Alors, c'est bien ça, avec un petit doute de ma part, j'ai pas réussi à retrouver l'information. J'ai lu qu'il avait été question de rétablir le cross-country pour les JO de cette année. Je n'ai personnellement pas trouvé confirmation que l'épreuve doive avoir lieu. Donc j'avais l'impression que ça n'avait pas été retenu. Mais on m'a dit que si. Donc là-dessus, j'ai un doute. Je ne crois pas. En tout cas, sur un siècle, il n'y a pas eu d'épreuve de cross-country aux Jeux Olympiques. D'accord. Ça, c'est sûr.
Je trouve ça quand même surprenant, parce que bon, ce jour-là, il a fait 40 degrés, mais on aurait très bien pu, à une autre période, il n'était pas évident qu'il fasse plus de 40 degrés chaque année de Jeux Olympiques. C'est ça que je comprends pas trop. Enfin, c'était quand même une épreuve qui était intéressante. C'est vraiment dommage. C'est juste un incident. Ça arrive pas tout le temps.
Pourquoi effectivement, je ne connais pas le détail des délibérations qui ont conduit à supprimer cette épreuve. Il faut avoir en tête que c'est une épreuve qui en plus se déroule en pleine nature, contrairement au marathon par exemple. Donc c'est pas dans un stade, c'est pas sur route. Ce qui veut dire que les sportifs sont livrés à eux-mêmes sur certaines parties du trajet. Peut-être que ça posait des difficultés d'organisation. C'est 10 kilomètres balisés en partie en pleine nature, relative nature. Là, on est dans la banlieue parisienne. Je pense que je pense que les organisateurs se sont rendus compte que, même s'il n'y avait pas eu de mort sur cette épreuve, ça aurait pu arriver, parce que les athlètes sont sans surveillance, donc je disais livrés eux-mêmes sur certaines portions du parcours, en termes de sécurité, ils ont dû considérer que c'était un trop grand risque.
Oui, d'accord, je comprends mieux comme ça, tout à fait, oui. Il n'était pas possible de mettre des personnels affectés à la surveillance des athlètes sur tout le trajet.
Voilà. Après, ça n'est manifestement pas non plus l'épreuve la plus médiatique déjà à l'époque. Lorsqu'on voit les journaux qui parlent des Jeux Olympiques, le cross-country, c'est une demi-colonne dans une page. Donc voilà, il doit aussi y avoir il y a aussi cet effet probablement. Le fait qu'une épreuve qui n'est pas très médiatique et qui en plus entraîne des difficultés d'organisation et des risques pour les athlètes. Il y a par ailleurs le 10 000 mètres sur piste. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que d'une certaine manière, le cross-country est supprimé, mais on maintient donc le 10 000 mètres sur piste. Henri Lovaux, en 1924, a couru les deux courses. Donc 10 000 mètres sur piste et cross-country. En 1928, aux Jeux Olympiques d'Amsterdam, il court encore le 10 000 mètres, justement.
D'accord. Il est dit, expliqué sur le panneau, que effectivement les quatre frères Lovaux ont eu beaucoup de titres régionaux et nationaux, avec trois participations olympiques, Anvers en 1920 pour Gustave, Paris en 1924 et Amsterdam en 1928 pour Henri. Mais le panneau explique également que malheureusement Camille n'a pas pu participer à la mythique course de Paris-Strasbourg, tandis que Gustave n'a pas pu courir aux Jeux Olympiques de 1912, alors qu'ils auraient dû le faire pour des raisons d'argent, puisque la famille était de conditions modestes, et comme tu l'expliquais tout à l'heure, à cette époque-là, c'était les athlètes qui prenaient en charge le financement de leur participation, donc il fallait payer le voyage et peut-être certainement une cotisation pour pouvoir participer.
C'est ça, donc Gustave, c'est un peu le héros tragique de l'histoire, c'est un champion, donc voilà, il est notamment champion de steeple en 1911, 1912, 1913. Donc ça veut dire que en 1912, il était le grand espoir français pour les Jeux Olympiques. Il était sélectionné pour l'épreuve de cross-country et il ne peut pas participer pour une somme qui pourrait paraître dérisoire, mais qui donc c'était 5 francs. Mais alors 5 francs avant en 1914, c'est une somme, et pour lui, ça représentait facilement les deux tiers de son salaire mensuel. Donc, ça, ce qui donne quand même une autre vision de la chose. Il n'a pas obtenu, il a demandé, il n'a pas obtenu de prêt de son club pour participer à l'épreuve. Donc il a dû y renoncer.
Et quand on gagnait une médaille aux Jeux Olympiques, on ne recevait pas un prix avec une certaine somme d'argent, parce que par exemple, Henri Loveau, lors de ce fameux cross-country, est quand même arrivé cinquième aux Jeux Olympiques de Paris 1924.
Et il reçoit différents prix, mais à ce moment-là, on n'a pas de prix en argent, à ma connaissance, pour les Jeux Olympiques.
Alors qu'aujourd'hui, tu sais ce qu'il en est ? Les gagnants, enfin les champions, reçoivent des sommes d'argent ou pas ?
Ah, je n'en ai aucune idée.
Ah, d'accord, ça, c'est un grand mystère. Ça m'étonnerait. Je pense que il doit y avoir des sommes d'argent qui doivent, enfin, quoique ça correspond quand même assez mal à la philosophie des Jeux Olympiques, qui est censée prôner des valeurs de désintéressement et de d'entente entre les peuples. Mais il faudrait se renseigner pour savoir si les champions olympiques reçoivent, ils doivent certainement recevoir quelque chose, comme les prix Nobel de la paix ou les prix Nobel d'économie, je pense. Enfin, c'est à vérifier. J'invite nos auditeurs à aller vérifier par eux-mêmes. En général, tous les personnages qui se distinguent par telle ou telle action ou activité, que ce soit en sport ou pour des activités intellectuelles, on reçoit souvent un peu d'argent avec le prix qu'ils reçoivent. C'est pour ça que je suis assez surprise. Je m'étais dit que les frères Loveau, si ça avait été le cas à l'époque, auraient pu se constituer un petit pécule pour pouvoir financer leur participation. C'est dommage.
Non, clairement, ça n'est pas le cas. Et d'une certaine manière, les frères Loveau, ils sont intéressants aussi pour ça, c'est-à-dire que ce sont des ouvriers pauvres dans un milieu sportif qui est encore plutôt, alors qui est censé être ouvert à tous, mais qui privilégie clairement des amateurs fortunés qui n'ont pas besoin de travailler pour vivre et qui peuvent donc se consacrer au sport, se consacrer à l'entraînement, alors que Henri Loveau, donc il le dit dans ce qui est beau même, c'est que donc le journal de la Marne qui couvre l'événement insiste sur le fait que Henri Loveau est un pur amateur et que trois jours avant de courir à Paris pour les Jeux Olympiques, il est encore sur le bateau paternel, donc à pêcher du sable.
Tout à fait, c'était quand même des personnages, puisque à l'époque, comme tu le dis, c'était très discriminatoire, le sport, et que souvent, seuls les gens issus d'une structure sociale, enfin d'une famille assez aisée, pouvaient arriver et faisait du sport, puisque c'était un luxe. Tous les autres faisaient du sport en travaillant, puisque souvent on travaillait durement pour des salaires pas très importants, et c'était très physique, puisque à l'époque on est encore dans la France agricole qui a plus de 90% rurale et paysanne. Donc souvent c'était des travaux, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, qui étaient durs physiquement, et donc aller courir ou faire des haltères pour se muscler, ça paraissait vraiment cocasse pour certains. Mais enfin bon, justement, donc les activités de la majorité des gens tournaient sur autre chose que du sport. Donc chez les Loveau, c'est quand même assez particulier. Il faudrait pouvoir se replonger dans le bain, où justement j'ai vu que dans ce qui est présenté dans l'exposition, il y a un petit livre où je crois que c'est Henri qui a écrit ses mémoires sur un cahier. Est-ce qu'il en parle? J'en sais rien. Comment est-ce que c'est venu chez ses fils d'ouvriers l'idée de faire du sport? Ça serait intéressant de déterminer pourquoi ils se sont mis à courir et pourquoi ils sont arrivés, ils ont été amenés à se retrouver dans un milieu qui n'était pas le leur finalement. Et ils avaient beaucoup de courage, ces jeunes, parce que effectivement, dans la semaine, ils faisaient des activités très physiques. C'était très physique le travail qu'ils... il fallait en vouloir. parce que le corps s'épuise, il y a quand même des règles pour courir une épreuve sportive comme le cross-country de 10 km, il faut quand même avoir un corps qui est reposé, il y a certaines règles et une certaine alimentation.
Après, bon, il faut nuancer le propos sur le sport amateur, c'est-à-dire que il y a vraiment, je pense qu'on peut dire qu'il y a deux mondes dans le sport amateur de cette fin 19e, début 20e. Des amateurs fortunés, c'est plus eux qu'on attend aux Jeux Olympiques. Par contre, dans le sport tel qu'il se développe dans les clubs, bon, manifestement, les clubs auxquels où vont les frères Lovo sont des clubs qui doivent être qui sont largement ouverts aux ouvriers. On est aussi dans une idée que l'utilisation du temps libre et la bonne utilisation du temps libre. La bonne utilisation du temps libre pour des ouvriers, ça doit pas être le bistrot. Et quand c'est pas l'église, quand c'est pas des activités religieuses, effectivement, ça va être plutôt des activités sociales, de sociabilité. Et le sport est un de ces moments donc pour se retrouver le dimanche. Donc je vois plutôt la chose comme ça, et c'est un peu ce que suggèrent les journaux de l'époque où on lit les comptes rendus, et on voit l'importance de ces clubs de sport comme lieu de rencontre, comme lieu de sociabilité.
D'accord. Gustave Lovo.
Mais voilà, après il faut vraiment distinguer les compétitions des clubs locaux, des clubs de Reims, des clubs chalonnais entre le week-end, le dimanche, et le fait de participer à des compétitions nationales, internationales, où là on attend beaucoup moins des ouvriers. C'est là que c'est surprenant de les voir se hisser à ce niveau et se battre pour se hisser à ce niveau. Et ce que je trouve, alors ce qui est presque de l'ordre de la fable dans l'histoire d'Henri Lovo, c'est que Henri Lovo, c'est un sportif, c'est un ouvrier, c'est quelqu'un qui est bâti en force, qui est un sportif d'endurance. Donc effectivement, sa course, son sport, c'est pas le 100 mètres, hein, c'est pas des épreuves de sprint. Et c'est sans doute pas non plus le marathon qui est une épreuve qui est beaucoup plus usante physiquement. On imagine que il pouvait pas se permettre de courir un marathon le dimanche pour être ensuite épuisé en début de semaine. Donc il va courir des courses de 5000, 10000 mètres. Son endurance, on nous dit que il la doit à sa carrure et à son activité professionnelle, qui est une activité physique, et on nous dit que justement s'il obtient cette cinquième place au jeu de 1924, c'est qu'il a une résistance à la chaleur qui est lié à son activité professionnelle. Lui, justement, il était sur la péniche, donc il supportait la chaleur toute la journée, quelques jours avant l'épreuve. Donc, il a une résistance qui lui permet d'aller au bout d'une épreuve que la plupart doivent abandonner. Donc voilà, presque une fable.
Ouais. Et puis il participe, comme tous les Chalonnais, à des clubs sportifs qui prolifèrent à cette époque à Chalons. Donc c'est l'occasion de parler de la vie locale. Le club pédestre et nautique chalonnais, créé en 1898, auquel Gustave participe. Et les activités de ce club cessent avec la Grande Guerre, nous dit le panneau, donc la guerre 14-18. Est-ce que ce club, aujourd'hui il y a plusieurs clubs pédestres et nautiques, enfin à l'époque on avait encore les bains municipaux à Chalons, sur le canal de la, sur la Marne, pardon, qui aujourd'hui on n'en a plus que les restes. Certains parlent de les remettre au goût du jour un jour, pourquoi pas. Mais en tout cas, cette époque, aujourd'hui, ils n'existent plus. C'était quand même quelque chose à Chalon-Sébains. Peut-être un jour, vous allez nous faire une petite expo dessus.
Ah, il y a déjà eu une exposition sur les bains, donc on... il n'y a pas très longtemps.
D'accord. Ah oui, c'est vrai, je me souviens, pardon.
Voilà, mais effectivement, on voit ces clubs et on aurait envie d'en savoir plus. Donc l'exposition est l'occasion de citer quelques noms. Donc le club pédestre et nautique chalonnais, et après la guerre, le Sporting Club chalonnais, qui en donc créé en 1919, mais il y a aussi donc en 1920 création du club indépendant sportif chalonnais. Donc on voit quand même beaucoup de clubs qui sont sur le même type de sport à Chalon, et les deux clubs fusionnent en 1925 et forment le Club Olympique Chalonnais. Et le Club Olympique Chalonnais, il est actif pendant tout le XXe siècle, et je crois que l'actuel club de rugby de Chalon est héritier de la branche rugby de ce Club Olympique Chalonnais. Donc c'est une histoire qui dure encore en quelque sorte.
Pardon, de quel club tu parles ?
Le club de rugby.
Ah d'accord.
Il est héritier du Club Olympique Chalonnais.
D'accord. En tout cas, il y a une tradition qui fait qu'à Chalon, il y a plein de clubs sportifs, un peu comme de partout. Mais on a de l'aviron aussi à Chalon, tu savais ?
Oh oui, oui, les pelles chalonnaises, je les vois.
Justement, on parlait du club, du Sporting Club Chalonnais, le SCC, qui en mai 1919 s'est constitué. Et auparavant, en 1898, était né le club pédestre et nautique chalonnais, qui va être remplacé justement par le SCC après. Et donc, ce club pédestre et nautique chalonnais est supprimé, et pour cause, parce qu'il y a la grande mobilisation avec la Grande Guerre. Est-ce que les quatre frères Lovaux sont partis à la guerre?
Alors, Gustave est parti à la guerre et il a été gazé. Ce qui, donc, son échec sportif s'explique par le fait que donc il a donc toutes les épreuves sportives se sont arrêtées pendant la durée de la guerre, et en 1919, il avait donc, ayant été gazé, il n'avait plus la capacité physique qu'il avait presque 10 ans avant, lorsqu'il était champion de ce type international.
Alors, être gazé, qu'est-ce que ça voulait dire exactement?
Donc il a les attaques au gaz de combat sont développés pendant la Première Guerre mondiale, et elles provoquaient les poumons, les bronches qui étaient attaquées par les gaz de combat, et les soldats gazés en gardaient des cicatrices internes aux poumons entraîner des séquelles à vie.
D'accord.
Henri Vandel, le conservateur de la bibliothèque de Chalon, en partir de 1920, a lui aussi été gazé, de sorte que donc effectivement, il en a gardé une mauvaise santé toute sa vie. Il est mort prématurément alors qu'il avait une soixantaine d'années. Et il avait justement œuvré pour les associations d'anciens combattants gazés.
En 1920, pourtant, Gustave participe bien aux Jeux Olympiques d'Anvers.
Voilà, donc il a quand même réussi, Gustave, à retrouver une partie de sa condition physique. Il a réussi à se qualifier pour les Jeux Olympiques d'Anvers, et il a une participation honorable. Il n'est pas classé, mais il doit être deuxième français. En tout cas, alors le journal de la Marne salue sa performance à ces JO d'Anvers de 1920. où il court, alors je sais plus s'il court le steeple ou le 10 000 mètres, mais enfin en tout cas voilà, une de ces épreuves. C'est toujours des épreuves d'endurance.
Et non, parce que sous la photo, on voit champion du steeple international 1911, 1912, 1913. Qu'est-ce que c'était cette épreuve de steeple?
Alors, il a... alors, sur le détail, je ne me rappelle plus exactement, mais en tout cas, il avait participé à des courses, une course donc qui se déroulait en France, mais qui était une épreuve internationale, qu'il avait remportée donc 3 années d'affilée en 1911, 1912, 1913. Gustave Lovo, c'est un contemporain et un concurrent de Jean Boin, qui lui a laissé un souvenir plus important, parce que lui, pour le coup, a pu participer aux Jeux Olympiques, mais il était considéré dans les années 1910 comme un super crack en matière de course d'endurance. Donc c'est vraiment c'est quelqu'un dont la carrière a été arrêtée brutalement et de manière inattendue, et par les questions financières en 1912 et par la guerre.
Très bien. Alors, Châlons-Champagne est quand même marqué, on a parlé par ces quatre personnages qui sont quand même assez exceptionnels. Ils arrivent à participer aux Jeux Olympiques alors qu'ils sont issus d'un milieu populaire. Gustave se remet de son gazage pendant la Première Guerre mondiale. Il arrive quand même à participer à Anvers, et tu m'as dit il est arrivé...
Alors je ne me rappelle plus sa position, mais en tout cas, voilà, il a été au bout de la course, il a fait une course honorable. Voilà.
Alors, et il y a ce stade municipal des frères Lovo, dont on a une plaque commémorative. Alors, tu nous racontes un peu l'histoire de ce stade,
si c'est possible. Le stade, donc, c'est le stade qui est à côté du rond-point de Bagatelle. Et qui effectivement était le stade où exerçait le club olympique chalonnais dont on vient de parler, et effectivement donc il y a eu cette volonté en 1986 de nommer le stade, qui n'avait alors pas de nom, et de le nommer en honorant les frères Lovo. Et donc là, c'est les quatre frères Lovo qui sont auxquels on fait référence dans la délibération du conseil municipal qui rappelle donc la carrière de ces quatre frères. Donc il y a Gustave Lovo, Henri Lovo que nous avons cité, et puis donc le marcheur Camille Lovo, né en 1902, et en 1904, René Lovo, qui lui est, comme Henri, un athlète de cross-country.
D'accord. Il y avait des épreuves de marche aussi, mais pas aux Jeux Olympiques, peut-être?
Alors, Camille n'a pas participé aux Jeux Olympiques, mais effectivement, donc il participe au. En fait, il a vu un peu le développement de la marche sportive. Le marche sportive n'est pas un sport, évident, si je puis dire. Donc c'est un sport qui est inventé avec ses règles qui est développé dans les années 1920 avec un certain nombre de compétitions. Camille Lovo, c'est amusant parce que lui aussi, il commence comme ses frères à faire de la course de fond, de demi-fond, et à un moment, il s'est rendu compte que son sport c'était la marche, et il s'y est illustré. Un peu à la surprise du public. En 1927, lorsqu'il est deuxième au Grand Prix de l'Armistice, on sent qu'on ne l'avait pas vu venir.
D'accord. Alors, un autre panneau sur le cross-country, à côté duquel, pour les gens qui viendraient visiter l'exposition, qui a lieu jusqu'à...
Donc, l'exposition a lieu jusqu'au 15 juin.
Alors.
Et on peut voir donc alors il y a un panneau qui évoque l'épreuve de cross-country des JO de 1924, et qui est à côté d'une vidéo donc d'un film de 1925 qui montre à peu près 7 minutes de cette épreuve de cross-country.
D'accord. Donc c'est cette fameuse épreuve qui a été après pendant laquelle beaucoup ont souffert à cause de la chaleur.
Voilà, c'est l'épreuve en question. D'ailleurs, il y a une image où justement on voit un athlète qui se relève après avoir eu manifestement un malaise.
D'accord. Alors, le cross-country, c'est une épreuve particulière. À l'Olympiade de Paris 1924, il y a un panneau qui nous explique, qui donne le nom des concurrents. Alors, le premier est finlandais, c'est monsieur Nurmi. Monsieur Ritola, finlandais toujours, est le deuxième. Alors, en Finlande, il devait être fort en participation. Alors, à l'époque, il n'y avait pas d'Africains. C'est très amusant. Aujourd'hui, quand il y a des épreuves de course, c'est souvent des Africains qui reviennent dans les premiers. R. Johnson pour les États-Unis, donc un Américain troisième. Monsieur Harper pour la Grande-Bretagne, donc quatrième, la Grande-Bretagne. Et Henri Lovaux, le cinquième, qui est français. Le dernier étant américain, Monsieur Studenroth.
Alors pour les amateurs de sport qui commencent, c'est un peu la période. Donc cette période dans les Jeux Olympiques est marquée par les succès de ceux qu'on appelle les Finlandais volants. Donc il y a effectivement beaucoup d'épreuves d'endurance qui sont remportées par donc d'endurance, de marathon, qui sont remportées par des Finlandais dans les années 1910-1920. Et donc Paavo Nurmi est effectivement un grand champion aussi bien en 1924 que, si mes souvenirs sont bons, en 1928. Et il a remporté d'autres épreuves en 1924 et il est aussi champion olympique en 1928.
Alors on a un écusson du Comité olympique français qui est représenté. Alors tout le monde connaît l'écusson parisien qui est surmonté d'une devise fluctuat nec mergitur avec un bateau, le bateau qui ne coule jamais. C'est le bateau parisien, le bateau français. Et là, vous avez le bateau olympique qui est une galère avec des rames.
C'est ça. Et c'est intéressant parce que donc on est au début des Jeux olympiques. Là, c'est la 8e Olympiade. Tout ce qu'on associe de nos jours aux Jeux olympiques n'est pas en place. D'une certaine manière, ce logo de la 8e Olympiade Paris 1924, c'est le premier logo de Jeux olympiques. Avant, il n'y en a pas vraiment. Il y a des affiches, mais il n'y a pas de logo officiel.
D'accord. Est-ce que c'est une galère sur la Seine? On ne sait pas.
C'est effectivement le symbole de Paris qui est adapté sous forme de logo olympique.
Voilà, tout à fait. Alors, je vois là, on voit un dessin du parcours, donc il y a la Seine. Le parcours longe la Seine pendant une bonne partie. Il passe devant l'île Marante, après le pont d'Argenteuil. Et je vois qu'il y a un parcours en prairie de 10 000 km, plus 650 mètres de parcours en cendré. Est-ce que tu sais ce que ça signifie, parcours en cendré?
Alors, la cendré, c'est... on va dire c'est la matière qui était utilisée pour les pistes d'athlétisme à cette époque. Alors à Châlons, à ce moment-là, il n'y avait pas de cendrée, c'est-à-dire que dans les années 1910-1920, sur les stades, on courait sur la pelouse. Mais effectivement, donc quand on faisait de l'athlétisme, donc l'ancêtre des matériaux rouges qui servent actuellement pour les stades, c'était cette cendrée. Après, je ne saurais pas t'en dire beaucoup plus.
D'accord.
Si je peux te dire quelque chose, c'est que par contre, donc Châlons a sa piste en cendrée dans le stade qui va devenir le stade des Frères Lovaux seulement dans les années 1960.
D'accord. Donc Pierre, alors juste pour rappeler que ce panneau cross-country, pour nos auditeurs qui auraient envie de venir voir, il y a bien entendu cette fameuse vidéo qui est très intéressante, de voir des gens courir. On est en 1924, on a drôlement de la chance de pouvoir visualiser ce petit film qui a été fait lors de cette mémorable séance de cross-country lors de laquelle la majorité des athlètes ont abandonné et pris des malaises à cause de la température, ce qui pourrait très bien arriver aujourd'hui, puisqu'on est arrivé à des températures bien supérieures encore cet été. Le panneau, alors je le précise quand même, on en parle, il a récemment sorti un livre sur la vie chalonnaise en photo. Ça fait un peu, il a un style de... Je parle de Christophe Manquillet, puisque c'est lui qui a participé à l'élaboration des panneaux avec ses photos.
C'est ça, c'est qu'effectivement, donc ouais. Alors, on est... donc, l'exposition, elle se fait sur des documents qui ne sont pas tous de nos collections. Et effectivement, nous avons fait appel à, donc, à un descendant d'Henri Loveau, Francis Flo, qui nous a prêté sa collection personnelle. Donc c'est elle, pour l'essentiel, donc celle qui est exposée dans les vitrines. Il y a assez peu de documents des archives et de la médiathèque. Et nous avons également eu le soutien de l'ancien journaliste de l'Union, Jacques Valentin, et de l'Office municipal des sports. Et les documents de Monsieur Valentin ont été photographiés par Christophe Manquillet, donc photographe de la ville, qui, comme tu le disais, a récemment publié un livre sur la Marne. Si, non, alors c'est la Marne ou Chalon, je ne sais plus.
C'est Chalon, oui, avec une série de photos qui font très douaneau d'ailleurs. Ça fait penser à des scènes de rue, des scènes de vie quotidienne.
Et alors, ce que je voulais préciser, c'est qu'effectivement, donc, il y a à côté de cette exposition, à l'intérieur de la médiathèque, il y a donc 8 panneaux, 4 triptyques qui sont placés devant l'hôtel de ville. Alors là, j'ai vu, ils sont donc aujourd'hui, alors je vous parle, ils sont en train d'être installés. Qui montre donc des athlètes olympiques chalonnais. Donc c'est un autre volet de l'exposition consacré à l'histoire olympique chalonnaise avec plusieurs athlètes olympiques chalonnais mis à l'honneur sur la place Foch.
D'accord. Ah, bon à savoir.
Et effectivement, ces panneaux sont aussi faits à partir des photos de Christophe Manquillet et principalement de documents des collections de la médiathèque et des documents de la collection de Jacques Valentin.
Très bien. À la médiathèque, vous avez choisi plus particulièrement de parler des frères Loveau. Comment est venue cette idée ?
Alors l'idée elle est venue par la rencontre justement avec Francis Flo, c'est-à-dire que la médiathèque voulait faire une exposition patrimoniale autour des Jeux Olympiques pour sortir un petit peu, on va dire, pour mettre un peu le patrimoine en short, et Francis Flo voulait donc honorer la mémoire de son grand-père en exposant donc sa collection pour les 100 ans de cette médaille de bronze chalonnaise.
Donc c'est un coup de chance, parce que ça complète très bien l'exposition dont tu parles, qui a lieu Place Foch, où on parle plus précisément des athlètes chalonnais en général, et pas seulement des athlètes olympiques, je suppose.
Avec les athlètes olympiques sur la Place Foch, parce qu'on arrive à en trouver un certain nombre des athlètes olympiques.
D'accord. Alors justement.
Et Boson, donc champion, donc médaille d'argent de dos dans les années. Alors c'est en 1952. Vous avez les frères Jeannet. Alors pas originaire de Chalon, mais qui était en club à Chalon lorsqu'ils ont remporté deux fois la médaille d'or à l'épée en équipe, et ils ont aussi remporté une médaille individuelle en équipe. Voilà, donc il y a plusieurs grands sportifs chalonnais, et tout récemment donc Daniel Royer, qui est un athlète de handisport, donc athlète avec, voilà, qui a pratique donc de multiples disciplines athlétiques, je crois qu'il est heptathlonien, et qui donc était aux Jeux Olympiques de Londres.
D'accord, on le sait.
Ce que vous verrez devant l'hôtel de ville. Mais pour en revenir à...
Au frère Louveau. Donc, Monsieur Flo, c'est, comme tu dis, tu nous as pas expliqué qui c'était.
Le petit-fils d'Henri Louveau.
Voilà, c'est le petit-fils d'Henri Louveau. Donc, je le rappelle, Henri Louveau, c'est celui qui a couru les cross-country Paris 1924 et qui arrive cinquième. Et donc,
Et donc nous avons tout un ensemble d'objets liés à cette participation d'Henri Louveau aux Jeux Olympiques, à commencer par le clou de l'exposition. C'est facile, c'est la première pièce qu'on voit en arrivant, c'est le maillot olympique d'Henri Louveau. Alors, on nous dit... apparemment, ce serait son maillot de sa participation de 1928, mais il ressemble énormément au maillot de 1924.
Oui, c'est le même que sur la photo.
Qu'on voit sur la photo, qu'on voit sur la vidéo. Est-ce que c'est un maillot créé par le coq sportif dont on entend beaucoup parler en ce moment? Je ne sais pas, mais là aussi c'est un point que j'aurais aimé éclaircir. Enfin voilà, donc vous avez ce maillot avec la bande...
Alors il y a aussi son badge de participant avec une photo de Henri Louveau en tenue olympique. Il y a un courrier de félicitations adressé à Henri Louveau de la Fédération Française d'Athlétisme qui existait déjà à l'époque, la FFA.
Voilà.
Une médaille de bronze de cross-country par équipe obtenue aux Jeux Olympiques de Paris, donc c'est à cette fameuse participation. Une très belle médaille, une médaille d'équipe. Et une médaille commémorative des Jeux Olympiques de 1924 aussi, où on voit l'ange de la victoire ceindre le crâne d'un sportif de la couronne de laurier.
Et ça, donc cette médaille commémorative, pour le coup, fait partie des collections du musée de Chalon.
D'accord, ok. Et nous avons également un bas-relief en bronze d'Edouard Fraisse, si je lis bien, qui a été offert par le club de Champagne de Henri Louveau.
C'est ça. Alors en fait, donc on a donc là le maillot, on a la médaille, et puis on a les récompenses qui ont été offertes à Henri Louveau par ses amis champenois.
On voit trois athlètes courir devant le Parthénon.
Donc on voit par le journal de la Marne que après la victoire d'Henri Louveau, des Chalonnais et puis donc manifestement les clubs sportifs champenois se sont cotisés pour lui offrir alors d'une part ce bas-relief en bronze qui représente des coureurs, mais plus à la mode antique, d'ailleurs avec le Parthénon au fond. Et ils lui ont également offert une pendule, un dessus de cheminée.
Qui est magnifique d'ailleurs, à l'époque ça se faisait beaucoup. Donc ça représente la nymphe du torrent. Et c'est l'horloger chalonnais Barthélemy et le sculpteur Charles Ruchot qui l'ont réalisé en 1934.
Voilà, donc à défaut de récompense en argent, Henri Louveau a reçu ses récompenses après sa victoire.
Voilà, avec un extrait bien sûr du Miroir des Sports, qui est un livre. Alors à l'époque ça coûte très cher, tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir ce genre de choses chez soi, qui relate l'épreuve de cross-country des Jeux Olympiques.
Voilà, mais c'est un peu l'ancêtre de... Alors, c'est pas exactement l'ancêtre du journal L'Équipe, mais c'est une...
Les annales.
Puisque là, périodique mensuel consacré au sport, et il est précisé que pendant les Jeux Olympiques de Paris, il est publié, alors non, j'ai dit mensuel, non, il doit être hebdomadaire, et il est même publié deux fois par semaine pendant la période des Jeux Olympiques de Paris. Donc effectivement, en le consultant, on a beaucoup d'éléments sur les Jeux Olympiques, mais comme je le disais, il n'y a que une demi-colonne et deux photos consacrées à l'épreuve de cross-country. Et sur ces deux photos, donc, il y en a une où on voit Henri Loveau en train de dépasser peut-être celui qui est arrivé sixième dans l'épreuve.
Il avait le numéro... Ah oui, en haut à droite. Ouais. Très bien. Eh bien, écoute, Pierre, merci pour cette émission. C'était très intéressant. Donc, il y a plein d'autres choses à voir. Une grande affiche Paris 1924 sur les Jeux Olympiques. Magnifique affiche, très très belle. Où est-ce que vous l'avez trouvée, celle-ci ?
Alors, celle-là, elle est libre de droit, donc elle est... on l'a trouvée sur Wikimedia, me semble-t-il.
D'accord. Le rapport olympique de 1924, avec le soutien qui a été réalisé, qui est issu d'une collection privée, et Office municipal des sports, quel est le rapport ?
C'est toujours donc la collection de Jacques Valentin, qu'il a mis à notre disposition avec le soutien de l'OMS pour faire des vues pour notre exposition et pour les panneaux devant l'hôtel de ville. Et alors, je voulais attirer ton attention, donc on parlait de Chalon Olympique, sur donc le troisième panneau qui lui évoque les épreuves chalonnaises de ces Jeux Olympiques de Paris 1924. Alors on est un peu surpris lorsqu'on regarde le rapport olympique de voir citer un stand olympique de Chalon-sur-Marne. Et donc quand on creuse, en fait on se rend compte que le rapport olympique évoque ainsi des épreuves qui se sont tenues à Mourmelon, donc au camp de Chalon. Mais bon, par simplicité, manifestement, plutôt que de citer Mourmelon, il cite Chalon-sur-Marne. Les habitants de Mourmelon vont être furieux. Et donc, les épreuves de tir de grande distance, donc 400, 600 et 800 mètres de distance pour ces Jeux Olympiques, ont été tirées dans un terrain aménagé au camp de Chalon, à Mourmelon. Et dans le même temps, d'autres épreuves de tir sur plus courte distance, donc 50, 200 et 300 mètres, avaient lieu dans un bâtiment créé pour l'occasion à Tinqueux, donc à côté de Reims. Un bâtiment qui, d'ailleurs, existe encore.
D'accord. Des épreuves de tir à longue portée, qui, bien entendu, étaient organisées sur un terrain militaire dont la région est riche. On n'a pas bien le temps de trop parler de ce qui reste. Il y a encore des choses très intéressantes à voir en vitrine. Je te laisse en dire deux mots rapidement, si tu veux.
Très rapidement, effectivement, on a parlé des frères Loveau. On a parlé du stade qui a été nommé d'après eux. J'attire juste l'attention, en fait, sur le carnet de souvenirs et d'anecdotes appartenant à Henri Loveau que tu as évoqué. Donc, il tenait un carnet de ses épreuves, enfin oui, il a noté ses souvenirs, donc ça peut être, alors il notait surtout ses temps, les temps de ses concurrents, il notait aussi le temps de ses frères, donc c'est intéressant, on voit effectivement les courses où il a bien réussi et où ses frères avaient également fait des temps intéressants, et alors forcément donc c'est un cahier personnel, donc on montre pas tout, mais on le montre sur la page qui évoque où il évoque justement sa participation aux Jeux Olympiques. Donc c'est un document intéressant, bien écrit, et personnel d'Henri Loveau.
Oui. Il raconte par exemple qu'à la veille des Jeux Olympiques de 1924, en juillet, qui avait lieu au mois de juillet, comme il avait fait une performance aux 10 km des championnats de France, il a été sélectionné, mais alors que le reste de l'équipe était à Paris, où ils étaient soignés et puis entraînés, Lui, il a été obligé de rester à Châlons pour travailler. Il est arrivé aux épreuves que le jour de l'épreuve à Paris. Et donc, il raconte qu'il n'a pas pu être aussi performant qu'il aurait dû et que dès le départ, il y a eu une erreur tactique qui a fait qu'il a été obligé d'attendre un petit peu. Peut-être qu'il serait arrivé premier s'il n'y avait pas eu tous ces aléas.
Alors, non, parce qu'en fait, il ne le dit pas, mais il a participé à deux épreuves. Et donc là, c'est le 10 000 mètres sur piste dont il parle, où effectivement, il était arrivé très mal classé au classement général, mais je crois deuxième français. En tout cas, donc il a le sentiment d'avoir raté cette course et il s'est rattrapé sur le cross-country qui, lui, était quelques jours après. Et donc où il avait eu un petit peu peut-être aussi le temps de s'entraîner plus et de se remettre de ses travaux du début du mois.
À l'époque, quand on participait à des épreuves comme ça, on gagnait des très beaux prix. Par exemple, ici, il y a une magnifique sculpture qui représente un marathonien qui aurait été faite par le sculpteur Henri Fugère, mort en 1944 et né en 1872. Et c'est un trophée, c'est que là aujourd'hui on nous donne des coupes qui sont toutes standards. Là il y a une chose magnifique, mais enfin bon, il faut dire aussi qu'Henri Levaux c'était quand même pas n'importe qui. C'était normal qu'il ait des prix un petit peu supérieurs à la moyenne.
Oui, il a effectivement de beaux prix, de beaux trophées, donc effectivement ces sculptures. Donc là, ce marathonien donc obtenu dans une épreuve de cross-country à Troyes. Et on a donc, alors apparemment donc, j'étais un petit peu surpris, mais donc il a également une sculpture de coureur de fond qu'il a apparemment obtenu à l'issue de son succès aux Jeux Olympiques. Mais donc, pour le coup, ça semble être une récompense officielle.
Très bien. Eh bien voilà, écoute, je te remercie beaucoup, Pierre. J'invite nos Chalonnais, après être allés voir la place Foch et l'exposition sur tous les champions olympiques chalonnais, à aller faire un petit tour à la médiathèque qui est ouverte même le samedi, toute la journée, pour venir regarder cette exposition qui est vraiment très intéressante. Il y a tous les trophées, toutes les médailles obtenues par les frères Levaux. Et on voit des belles images et surtout cette vidéo de cette fameuse épreuve, l'épreuve du siècle dernier, qui était un cross-country où il a fait très chaud. Je vous remercie, chers auditeurs. Pierre, je te remercie aussi.
Je t'en prie.
Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.